Nous avons vécu une aventure qui avait des très belles et très généreuses promesses à son commencement, qui est devenue une espèce de délire, qui a coûté très cher aux autres, à nous, aux personnes que nous haïssions et aux personnes que nous aimions. Nous désirons d'en sortir définitivement, sans haïr les vieilles personnes et sans être forcé à choisir quel genre haïr et quel genre aimer.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Francesco Giorgini, année rouge, année noire, année 70 en Italie.
Une décennie furieuse de l'italisme, ce sont les années 70, des années impardonnables pour l'Italie.
Impardonnables ?
Impardonnables. Et impardonné.
Si en italien, on dit les années de plomb. On dit d'une guerre civile. C'était une guerre civile d'un type spécial.
Perché sono volate molte palle di piombo.
Parce qu'il y avait beaucoup de balles en plomb qui passaient dans l'air.
Et poi di piombo per dire che l'atmosfera era di piombo, cioè grigio piombo.
Et d'un autre côté, pour dire que l'atmosphère était gris comme le plomb.
Est-ce que vous les appelez les années de plomb, vous aussi?
Oui, aussi. Pas seulement, mais en tout cas, oui.
Noi abbiamo un aggettivo in italiano, che è plumbeo, che significa grigio pesante come il piombo.
On a un adjectif en italien qui n'existe pas en français, qui est plumbeo, qui veut dire de la couleur grise lourde du plomb.
Parce qu'il y a eu beaucoup d'armes, de pistolets, de bombes, alors on les appelait pour se noter surtout parce qu'il y avait beaucoup de morts et d'attentats.
Oh, non, li chiamo gli anni di piombo.
Non, je ne les appelle pas les années de plomb et je suis très dérangé. J'ai un gêne très fort quand ils sont appelés comme ça.
Mi piacerebbe chiamarli gli anni della grande rivolta in Italia.
J'aimerais les appeler les années de la grande révolte en Italie.
Et là, à côté de nous, la femme qui parle, qui voudrait que ce soit les années de la grande révolte en Italie. Elle a participé à cette grande révolte que d'autres, vous avez entendu, dont l'ancien président de la République, Cossiga, appelle les années de plomb. Mais elle, c'est les années de la révolte, c'est les années de la violence, c'est les années de la lutte armée. Elle s'appelle Barbara Balsareni et elle est... Elle était une brigade rouge, une brigadiste rouge. Et c'est avec elle qu'on va passer cette heure pour mesurer le temps passé, les renoncements, les regrets, les repentirs, les cohérences et les incohérences et autour d'un énorme cadavre dont on ne sait pas trop comment se débarrasser dans l'Italie aujourd'hui, on dirait jamais, surtout nous Français qui avons de l'Italie ces indécrottables et inoxydables clichés construits au siècle dernier, enfin celui d'avant, le 19e, si bien que nous avons de l'Italie des images de charme, de sourire, de respect, d'amitié, mais très souvent ça nous empêche de voir ce qui s'est passé dans ces années 70. Hormis un autre cliché à quoi tout se réduit, c'est évidemment l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro. La femme qui est avec nous aujourd'hui, on est assis dans un square un peu pelé d'un quartier de Rome. On a cherché à s'asseoir un peu à l'ombre. Elle était là ce jour-là. Elle était là le jour de l'enlèvement d'Aldo Moro. Elle était là et elle avait une mitraillette et elle a tiré sur les gardes du corps d'Aldo Moro. Et elle a payé, elle a été condamnée, elle a payé, elle paye toujours sa peine. Avec le temps, le monde a changé, on nous l'a dit et redit, on le sait, depuis au moins pour la raison que le monde n'est plus bipolaire aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule, nous n'avons plus qu'un seul maître aujourd'hui, c'est un bouleversement, mais il y en a beaucoup d'autres. Et en même temps, il y a une continuité. À chaque personne que nous avons rencontrée, qu'elle soit de gauche, de droite, quel que soit l'âge, quelles que soient les convictions, les sensibilités, à chaque fois qu'on a évoqué avec Francesco, qu'on a évoqué Gênes, qu'on a évoqué Carlo Giuliani, à chaque fois, on a dit là il y a une continuité. Là, il y a quelque chose. Il y a même Eri De Luca a dit c'est notre sang à nouveau versé. Enfin, c'était très lyrique. Là, il y a continuité. Et puis il y a des ruptures. Et parler de ces années-là, c'est parler d'aujourd'hui. Et puis c'est parler de nous, parce que l'Italie, c'est nous, c'est notre Europe. Et c'est une histoire qui est proche de la nôtre, celle des années 70 en Italie. Même si, on va le voir à nouveau aujourd'hui, il y a des ressemblances et il y a des différences. C'est un peu comme entre cousins. Jusqu'à 18h, dans la base où j'y suis, les années rouges, les années noires, Italie, années 70.
Circolare a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei. Mio caro padrone, domani ti sparo, farò di tua pelle sapon di somaro, ti stacco la testa che è lucida e tonda, così finalmente imparo il bowling, miei cari compagni, perché quelle facce, ho detto qualcosa che un po' vi dispiace, se forzo è ceduto non fateci caso, 20 anni di rabbia fan parlare così, pensate che bello il giorno 21, padroni son tanti e padrone nessuno, pensate che bello sarà. Ma prima ti inchiodo la lingua al palato, ti faccio ingoiare un pitone salato, e con quei tuoi occhi porcini e cretini, alla mia ragazza farò gli orecchini. Compagni, sia chiaro che il giorno 21, migliore vendetta sia proprio il perdono, e allora saremo più grandi e più forti, se tutti i rancori saranno sepolti, però... Chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli, tutte piene di cordogli, pianger solo il venerdì? Che
ti importa se ti strippo, se ti importa accendi un cero, te lo spengo tutto intero dentro il naso, tutto intero, dentro il naso, tutto intero, dentro il naso.
La macchina con i corpi degli agenti che facevano parte della scorta dell'onorevole Moro, coperti da un telo. Sono due uomini sulla 130, un altro corpo è sulla macchina che seguiva. I carabinieri stanno facendo i rilievi. Sono quattro morti, mi dice
più un ferito,
mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. E il sindaco, mi dice ancora questo collega, ti ringrazio.
Elle était là. Elle était là ce jour-là, ce 16 mars 1978, cette femme qui est avec nous aujourd'hui, à Rome, dans ce square. Elle était là. Et ce journaliste décrit ce qu'il voit, c'est-à-dire l'escorte, les gardes du corps d'Aldo Moro qui viennent d'être abattus, et Aldo Moro vient d'être kidnappé. C'est le début d'un des événements les plus violents qui dépasse bien évidemment largement l'Italie, qui va mobiliser le monde entier pendant 55 jours. Les brigades rouges vont détenir, emprisonner Aldo Moro, et au bout de 55 jours, la police recevra un coup de fil indiquant le corps d'Aldo Moro est quelque part dans Rome, exactement via Caetani, et dans le coffre d'une 4L rouge. Effectivement, on retrouvera le corps d'Aldo Moro, le responsable de la démocratie chrétienne en Italie. On va évoquer évidemment ce moment crucial, qui reste à bien des égards encore aujourd'hui, les années passant, les livres écrits, les études, les analyses, les exégèses de toutes sortes. C'est une histoire qui reste encore largement mystérieuse et qui prête à beaucoup d'interprétations. Cette histoire, l'histoire des années 70 en Italie, n'est pas encore écrite, même si beaucoup de dispose quand même de beaucoup de pièces et d'éléments, mais c'est une histoire qui bouge encore et qui remue encore la mémoire de ce pays, notre mémoire à tous, et qui hante, pourrait-on dire, cette mémoire de chaque côté des Alpes, puisque la raison de ce qui nous a donné envie d'aller enquêter sur cette époque, c'est l'affaire Cesare Battisti. On l'a dit et redit, il y a un tel malentendu, semble-t-il, entre l'Italie et nous, qu'on a voulu comprendre dans quel cadre et dans quel contexte historique maintenant, parce que quand même tout ça relève de l'histoire, Cesare Battisti a évolué, s'est battu et a fait ce qu'il a fait. Il faut remettre tout ça dans ce contexte. Et là donc le contexte, eh bien c'est cette femme qui va nous raconter son parcours, comment une jeune femme peut devenir un jour, peut dire j'ai été contrainte non seulement d'entrer dans les brigades rouges, qui étaient un mouvement, disons, mais un mouvement qui était clandestin et qui avait la lutte armée comme programme, pas tout de suite. Elle va nous l'expliquer. Il y a un virage dans l'histoire des brigades rouges qui fait que l'option de le saut qualitatif, comme selon la terminologie de l'époque, est accompli, et les brigades rouges passeront à la violence armée clandestine offensive, avec pour programme attaquer le cœur de l'État. Et c'est avec cette terminologie qu'ils iront jusqu'à donc arrêter et exécuter Aldo Moro. On n'en est pas là encore pour l'instant, on est avec Barbara Balserani.
È stato un processo rivoluzionario, perlomeno nelle intenzioni di chi stava lì era... si pensava di stare facendo la rivoluzione.
C'était probablement oui un processus révolutionnaire et en tout cas dans les intentions et dans le sentiment de ceux qui étaient présents, ils étaient en train de faire la révolution.
Et pourtant dans l'opinion, on a l'impression qu'en Italie, c'est pas vécu aujourd'hui dans la mémoire, au point où on est la mémoire et au point où on est l'histoire, pour l'instant, c'est toujours pas vécu comme des années de révolte.
Bah, intanto va detto che l'esito di vent'anni di...
D'abord, il faut dire, pour comprendre pourquoi cette perception, c'est que le résultat de ces presque 20 ans de lutte commence en 68 avec les mes étudiantins qui continuent en 69 avec l'automne chaud des ouvriers et puis qui dure jusqu'au moins au début des années 80. Le résultat était une sévère et grosse défaite.
Une défaite pour qui?
La sconfitta è stata di tutta la sinistra, da quella istituzionale a quella più estrema. È stata la sconfitta che poi...
La défaite était une défaite de toute la gauche, de la gauche istituzionale jusqu'à la gauche estrema. Et c'est une défaite qui a un caractère mondial aussi. Le point culminant étant 89 et la fin d'un modèle alternatif au modèle capitaliste occidental.
Et vous êtes engagé dans les mouvements aujourd'hui altermondialistes ou autres?
Con profondo sentimento. Io non posso partecipare a dei movimenti politici, fa parte della mia condanna.
Avec mon cœur, mais je peux pas participer activement au mouvement politique parce que j'en suis interdit. Ça fait partie de ma condamnation, le fait de pas pouvoir m'adonner à de l'activité politique.
Et vous êtes libre aujourd'hui?
No, questa è la mia pausa a pranzo, dall'una alle tre.
Non, ça c'est ma pause repas, entre 1h et 15h.
Il resto del tempo lo passo sul posto di lavoro, perché io sono fuori per lavorare sostanzialmente. Poi la sera ritorno in carcere.
Il resto del tempo je le passo en travaillant. J'ai un droit de sortie pour travailler, mais la nuit je dors encore en prison.
E se me la danno, per 5 anni sono in libertà condizionale e dopo dovrei aver finito.
Moi je connais la perpétuité. A partir du 26e année de ma peine, je peux demander la mise en liberté conditionnelle et après, je devrais faire encore 5 ans de liberté conditionnelle et après quoi, normalement, si tout va bien, j'aurai retrouvé ma liberté complète.
Alors là, pour l'instant, vous travaillez, c'est quoi votre travail? On peut vous le demander?
Sì, io lavoro in una cooperativa sociale, non so se in Francia...
Travaille dans ce qu'on appelle une coopérative sociale, on l'appelle comme ça aussi parce que justement, donne à travailler à des personnes comme moi.
E il mio lavoro principale è quello di progettare su fondi europei, nazionali,
et mon travail, c'est de organiser, de progetter des programmes d'activités et de sociaux à partir de fonds aussi bien européens que nationaux che local, soprattutto per delle categorie in grande difficoltà, delle categorie très esposées come gli anziani detenuti, come gli anziani toxicomani, come i marginaux, eccetera.
Ma voi potete avere una vita di famiglia, vous avez des enfants?
Io ho una famiglia, la mia famiglia d'origine, che è molto grande, molto presente.
J'ai une famille, ma famiglia d'origine, che è una famiglia très large e che è stata très présente tout au long de ma vie.
Parte non mi è stato concesso dalle scelte della mia vita, poi dal carcere, in parte per scelte mie.
J'ai pas d'enfant, en partie parce que les choix de ma vie et la prison après ne l'ont pas rendu possible, en partie aussi parce que c'était un choix personnel.
Significativa. Ma ho anche una vita spezzata in due e per me è difficile.
Néanmoins, je pense avoir une vie affective, relationnelle riche, mais n'empêche que j'ai quand même une vie cassée en deux. Et pour moi, c'est très difficile d'imaginer un projet de vie qui ne se soit pas un projet quotidien.
Vous êtes obligé de vivre au jour le jour.
Si.
Est-ce que les gens vous connaissent en Italie, vous connaissent physiquement, vous ont vu, et ça inspire quel comportement de la part des gens qui apprennent qui vous êtes?
La politica italiana, sia negli anni ovviamente della lotta armata, sia da parte delle forze di governo, ma sia da parte della sinistra.
Je ne sais pas si les gens pensaient qu'on avait des sabots et des écailles, mais effectivement.
È sempre stata tesa a mostrificare nel senso di tirare fuori dal consesso sociale, culturale.
Il y a eu une sorte de processus de monstrification et quelque part qui a fait qu'on a rendu presque irréelle la figure des brigatistes et donc en réalité très peu définissable, très peu identifiable, très peu rapprochable à un être humain réel.
Le normali persone che passano in questo giardino, non ti so dire come viene visto, sicuramente non so se uno pensa che
c'est un grand parti du fantasme et sûrement ça a rien à voir avec justement la définition d'une personne
non una persona normale, ecco.
Un chair et un os.
On a du mal à penser à quel point vous, les Brigades Rouges et d'autres mouvements de lutte armée ou de la gauche extra-parlementaire, vous aviez une base populaire.
In Italia il movimento, anche il movimento antagonista, è durato più degli altri paesi europei, è andato molto più in profondità e con molta più radicalità. Et sur questo si è innescato un processo di
d'une part le mouvement de 68 et les mouvements sociaux qui ont suivi en Italie sont allés beaucoup plus loin, aussi bien dans la profondeur que dans l'élargissement de la base sociale, che dans la radicalité des revendications et des radicalités des pratiques.
Punto finita con la fine di questo secolo, e che ha trovato un consenso, è vero.
E il successo è sviluppato, si è branché, di ça è né in partie un mouvement de lutte armée qui avait jugé, vu les conditions sociales, que la voie vers la conquête du pouvoir et donc la voie vers la révolution, la voie armée, était jouable. C'était une partie qu'on pouvait gagner. À l'époque, on pensait qu'on pouvait gagner. Et donc, effectivement, il y avait du consensus, il y a eu du consensus et il y a eu effectivement une base sociale. Et le fait est démontré aussi que on ne pourrait pas s'expliquer autrement la durée de ces mouvements de lutte armée, leur persistance, leur capacité aussi d'être active, s'il n'y avait pas une base sociale, s'il n'y avait pas une certaine forme de consensus dans leur base sociale.
Forza compagni, entrate nello stand, editici notizie, non avete riguardo. Editici notizie e informazioni.
Cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, m'è arrivata la liquidazione, ma licenziato senza pietà. E la ragione perché ho scioperato, per la difesa dei nostri diritti, per la difesa del mio sindacato, del mio lavoro e della libertà.
Donc ça raconte, c'est une des chansons les plus connues, les plus touchantes des chants ouvriers de l'époque. Et ça s'appelle « O cara moglie, ma chère femme ». Et ça raconte d'un ouvrier qui rentre, qui vient d'être licencié et qui donc dit à sa femme, dit à mon fils d'aller se coucher parce que les choses que j'ai à raconter sont des choses qu'il ne doit pas entendre. Et il raconte comme il a été licencié suite aux grèves qu'il a fait pour son droit, pour défendre son syndicat. Et petit à petit, il raconte et il explique comment c'est les jeunes, c'est les ouvriers qui n'ont pas participé à la grève qui ont donné la force au patron de gagner et que sinon le patron pourrait jamais gagner si on se bat tous ensemble. Et finalement, il dit à sa femme, tout à l'heure, je me suis trompé, réveille mon fils, il faut qu'il sache qu'est-ce que ça veut dire se battre pour sa liberté et pour son travail.
Lottare per la libertà.
C'était un moment où le mouvement était devenu fou. Les brigades rouges sont la variante du mouvement qui est devenu folle. Tony Negri analyse de cette façon l'action des brigades rouges en 1978 lorsque les brigades rouges enlèvent Aldo Moro et 55 jours après l'exécutent et le laissent dans le coffre d'une voiture dans une ruelle de Rome. Et dans ce mouvement, pas pendant la garde de d'Aldo Moro, donc dans cette fameuse fameux appartement romain, mais au moment de l'enlèvement, eh bien, elle était présente. Elle s'appelle Barbara Balserani, et aujourd'hui, on l'a rencontrée avec Francesco à Rome, où elle continue de faire. Elle est en liberté, demi-liberté, et elle continue donc de faire sa peine, comme elle vient de nous l'expliquer. Elle fait partie de ces anciens brigadistes. Ils sont quelques centaines comme ça, avoir été condamnés dans les années 80 au cours de ces fameux procès. Vous vous souvenez peut-être ces images on les voyait derrière des barreaux, dans des cages. Et voilà, ainsi s'achève étrangement cette histoire qui ne passe pas, hein. La formule a été sans doute trop employée, d'un passé qui ne passe pas, mais pourtant c'est bel et bien la vérité.
Vous avez dit un diritto inviolabile, et ora se venite, ci criminalizzate, ma dove andiamo? A questa libertà!
Turin, juin 78. Dans une caserne transformée en tribunal, un avocat parle. Dans la cage de fer qui sert de boxe, 14 hommes et une femme, surveillés par 50 carabiniers, l'arme au poing. Un procès qui a duré 106 jours. L'accusation, attaque à main armée, enlèvement avec demande de rançon, plastiquage et assassinat. Les 15 inculpés, les créateurs, les responsables, les exécutants du mouvement terroriste qui fait trembler l'Italie, les brigades rouges.
Vous personnellement, dans quelle était la première action meurtrière dans laquelle vous avez été engagé?
Ma io ho partecipato ad azioni violente molto prima delle Brigate Rosse.
Moi, j'ai commencé à participer à des actions violentes avant de rentrer dans les Brigades Rouges parce que je faisais partie d'un mouvement qui était violent. Et d'ailleurs, mon ami Henri De Luca, qui est un des rares intellectuels honnêtes sur cette histoire, dit que c'était un mouvement violent et armé.
Questo non ve lo dico. Ma per una semplice ragione, io ho sempre rivendicato.
À ça, je ne veux pas répondre, parce que moi, j'ai toujours revendiqué, du point de vue politique, toutes les actions militaires des Brigades Rouges, toutes les actions militaires m'appartiennent, et donc c'est strictement indifférent de savoir à lesquelles j'ai participé physiquement.
Ci proclamiamo pubblicamente militanti dell'organizzazione comunista Brigate Rosse e come combattenti comunisti ci assumiamo collettivamente e per intero la responsabilità di ogni sua iniziativa passata, presente e futura.
Nous nous proclamons publiquement militants de l'organisation communiste Brigade Rouge et en tant que combattants communistes, nous assumons collectivement et entièrement la responsabilité de chaque initiative passée, présente et future.
Alors, déclaration donc d'un leader des Brigades Rouges lors du premier procès des Brigades Rouges, il s'appelle Franceschini, assumé donc toutes les responsabilités. Lorsqu'il dit futur, il s'avance peut-être un peu trop, en tout cas c'est pas ce qu'il dit aujourd'hui sur les attentats revendiqués par des gens qui se revendiquent des Brigades Rouges dans les événements récents et les attentats de ces derniers années. Mais en tout cas, il y a encore dans la mémoire d'un certain nombre d'ex-brigades rouges cette volonté d'assumer les responsabilités de l'époque. C'est pas le cas de tous parce que vous le savez, la technique, si on peut dire, du pouvoir et de la justice italienne a été le système des repentis. C'est-à-dire, le mot dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que ceux qui sont accusés, qui sont inculpés, peuvent voir leur peine réduite, voire même être libérés, s'ils se repentent. En dénonçant leurs camarades, ce que un certain nombre ont fait, et ce qui évidemment a entraîné des relations absolument pourries, épouvantables entre les uns et les autres, et ça a été une déconstruction de cette façon, une véritable faillite pour ce mouvement et à l'intérieur du mouvement, dans les relations entre les uns et les autres. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Pour l'instant, on est avec Barbara Balserani qui nous explique comment tout ça pour elle a commencé.
Io non sono di Roma, sono nata in un paese della provincia di Roma e sono arrivata a Roma nel 1968.
Je suis pas né à Rome, je suis né dans une petite ville de la province de Rome et je suis arrivé à Rome en 1968.
18 anni.
E j'avais 18 ans.
Sono arrivata nel 1968, quindi nell'anno giusto. E ho fatto gli anni del movimento studentesco.
Donc je suis arrivé à Rome en 68 à 18 ans, en 68 donc je suis arrivé la bonne année et j'ai participé au mouvement étudiantin et au mouvement sociaux de l'époque.
83 credo. Ho partecipato al dibattito diffuso, massificato.
Et je suis rentré dans une organisation de l'extrême gauche extraparlamentaire qui s'appelait Pouvoir ouvrier, Potere operaio. À la dissolution du pouvoir ouvrier en 73, des potes opérailles en 73, j'ai participé, comme des milliers d'autres, au débat massif et diffus sur la lutte armée et sur la possibilité de la lutte armée.
Vous faisiez des études, vous étiez de quel milieu ?
Io sono figlia di una immigrata veneta che faceva la contadina in Veneto e che è scesa.
Je suis fille d'une femme qui vient de Vénétie, d'origine paysanne.
Lei fa in quella fabbrica, mio padre faceva l'autista.
Et qui est immigré avec toute sa famille dans cette petite ville de la Provence de Rome. Et donc ma mère a été ouvrière toute sa vie et mon père était chauffeur routier. Voilà mes origines sociales.
Sono l'ultima figlia, l'ultima di cinque figli. Quindi mentre i miei quattro che m'hanno preceduto non hanno potuto studiare.
Moi j'étais la petite dernière de cinq frères.
Quando le condizioni economiche erano decisamente migliorate.
Mes frères n'ont pas pu étudier parce que les conditions économiques ne le permettaient pas.
Sono venuto a Roma per fare l'università.
Mais moi je suis arrivé quand les conditions économiques étaient un peu meilleures et donc moi j'ai pu étudier, donc je suis venu à Rome pour faire l'université.
Quand est-ce que vous rentrez vraiment dans les Brigades Rouges, vous ?
Io entro nelle Brigate Rosse dopo il sequestro Sossi, che è stato nel 1974.
Je rentre dans les Brigades Rouges après l'enlèvement Sossi, qui est de 1974.
C'est-à-dire que 1974, c'est un virage où là, il y a une radicalisation.
Due, tre date, le bombe del 69, c'è una data importante, che è il 1973, il colpo di Stato in Cile. Il colpo di Stato in Cile lo sappiamo tutti cosa
dans
è stato.
Dans cette histoire, il y a bien entendu des dates clés. On pense immédiatement à 1969, les bombes, le massacre di Piazza Fontana. Mais pour ce qui est de la radicalisation du mouvement, une date clé qu'on a ressenti comme telle, qu'on a vécu comme telle, a été le coup d'État contre Allende au Chili en 73.
Comme tous quei paesi sfruttavano le materie prime di questi paesi, c'è stato il colpo di Stato.
Là, un gouvernement, un front populaire, élu démocratiquement, qui arrive au pouvoir selon les voies constitutionnelles, va être balayé du moment où il commence à gêner les intérêts des multinationales américaines et à nationaliser les propriétés des multinationales américaines au Chili, multinationales américaines qui ravageaient tous les pays du continent sud-américain. Et donc c'est cette date-là qui constitue un tournant dans la perception de beaucoup de militants.
Quels sont vos adversaires ? C'est le capitalisme, le fascisme, le néofascisme, c'est le parti communiste ?
L'antifascismo è stato un connotato genetico di questo movimento. Le forme di espressione dei gruppi armati hanno trovato, come quello che si diceva ai tempi, il nemico principale, anche soggetti diversi.
Credo che l'antifascismo è partito dal codice genetico del movimento. Les ennemis pouvaient varier. Ensuite, les ennemis pouvaient varier. Par exemple, les Brigades Rouges ont mené une bataille parfois même très dure, très virulente, sur le thème du fait que c'était la démocratie chrétienne en Italie qui était l'ennemi principal. Pour d'autres, par exemple, l'ennemi principal était plutôt le Parti communiste, effectivement, et évidemment, pour d'autres encore, le front principal était celui de la bataille contre les néofascistes.
Vous aviez un entraînement militaire ? Quel entraînement vous aviez ?
C'era un addestramento militare, anche se era assolutamente non quello che si immagina.
Sì, sì, oui, il y avait un entraînement militaire, un entraînement militaire, pas du tout comme on se l'imagine. Évidemment, on avait appris l'emmaniement des armes, et on a effectivement produit des actions militaires de grande envergure, de grande puissance, souvent, parfois, mettant avec la participation d'un nombre très élevé de militants, mais notre efficacité était, je crois, plus lié à la solidité et à l'enthousiasme de notre conviction politique que non à nos connaissances en balistique plutôt qu'à notre capacité à être des tireurs d'élite.
Riyad Moro, ahimè, nessuna altra notizia. Abbiamo trepidato ieri alla scadenza dell'ora fissata dagli uomini autocostituitisi giudici unilaterali e carnefici, e trepidiamo ancora, sempre sperando e pregando che sia risparmiata a Roma, all'Italia, al mondo e specialmente alla famiglia, agli amici, la consumazione del criminale annunciato misfatto.
Mais 1978, la voix du pape, au cours de ces 55 jours où chaque minute comptait, l'Italie tout entière retenait son souffle, essayait de savoir où était d'abord enlevé, détenu Aldo Moro à travers le pays, à l'étranger peut-être, et puis que faire, la fermeté, la négociation, ça a été un traumatisme pour tout un pays et on peut dire pour l'Europe, enfin ou le monde entier d'ailleurs. C'était un grand mystère pour les militants eux-mêmes, pour les anciens brigadistes eux-mêmes, pour tous ceux qui participaient, qui se trouvaient acteurs ou témoins de ces années turbulentes, passionnées, folles à bien des égards. Beaucoup de témoins l'ont dit, on entendait tout à l'heure Sofri qui évoquait le caractère délirant de ces par moments inexplicables de ces mouvements et de ces comportements, et au milieu de tout ça, vous voyez, c'est le parcours de cette une femme, finalement une jeune femme à l'époque, tout à fait tranquille, mais qui se trouve peu à peu prise dans cette dans cette voie, sur les rails de la lutte armée et de l'homicide politique.
Mais alors, vous avez participé à l'enlèvement d'Aldo Moro.
Sì, io ho partecipato al sequestro Moro. Questa è l'unica cosa che sono disposta ad ammettere.
Oui, j'ai participé à l'enlèvement d'Aldo Moro et c'est la seule action spécifique laquelle je veux admettre ma participation physique pour une raison très simple. Et sur cette action, on a tellement construit d'hypothèses, tellement construit de fantasmes, tellement construit de reconstructions tendancieuses qu'une fois le processus judiciaire terminé,
Io mi sono sentita di contribuire alla ricostruzione di quell'azione così importante.
J'ai voulu personnellement prendre la parole sur ça pour essayer de rétablir celle que je considère la vérité parce que j'y étais. C'est-à-dire que cette action a été pensée, organisée, voulue seulement et à partir des Brigades Rouges.
della democrazia cristiana al suo presidente Aldo Moro parlamento.
13 mai a Rome, des milliers de personnes recueillies défilent à l'endroit même où le corps d'Aldo Moro a été retrouvé.
Alors, bien sûr, la plupart des militants, des ex-Brigades Rouges disent c'est nous qui avions conçu, agi. La plupart parlent ainsi. Mais beaucoup, 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 en revanche, d'observateurs, d'autres acteurs, d'autres témoins ont des idées différentes, et pas seulement des idées, mais aussi des preuves et des faits tout à fait différents. Et pour beaucoup, à défaut d'avoir vraiment été manipulés ou même infiltrés, les Brigades Rouges n'ont pas agi avec toute l'indépendance d'esprit et toute la liberté d'esprit dont ils voudraient aujourd'hui nous persuader. Des anciens même des Brigades Rouges, on entendait tout à l'heure la voix d'Alberto Franceschini, qui lui n'écarte pas toujours aujourd'hui l'hypothèse sinon d'une infiltration, tout au moins d'une complaisance des autorités qui accompagne le phénomène brigadiste. Et il précise que le mouvement qu'il a dirigé, puisqu'il l'a dirigé jusqu'en 1974, a bien eu des forces politiques italiennes ou bien étrangères qui ont pu indirectement nous utiliser, dit-il. Il faut bien souligner que ce genre d'utilisation se faisait indépendamment de notre volonté. Certaines forces politiques italiennes de toute évidence utiliser les Brigades Rouges afin de déstabiliser le Parti communiste italien, ou bien la démocratie chrétienne. C'est un jeu politique compliqué, mais c'est passionnant de comprendre comment ça s'est passé. Et il précise, il n'y avait qu'à nous laisser exister, il suffisait de construire autour de nous un mur de protection. Et effectivement, dans la manipulation, c'est un pays très manipulateur. On est dans le pays de Machiavel, on est dans le pays d'un pouvoir qui à l'époque déjà était un pouvoir à la fois opaque et corrompu, avec ses sociétés secrètes, on les évoquera, la loge P2, ce grand système qui était Gladio, dont on sent la main derrière, probablement, peut-être, beaucoup de preuves, beaucoup de faits le suggèrent. Et bref, vous avez compris, rien n'est clair. Alors évidemment, les imaginations gambergent. Cette histoire, encore une fois, n'est pas écrite. Barbara Balserani a évoqué Eri De Luca, qu'on a rencontré lundi dernier. Il nous a donné cette interview. Lui-même, je le rappelle en bref, cet écrivain aujourd'hui, Eri De Luca, a été un acteur de ces années-là. Il appartenait au mouvement Lotta Continua, et qui s'est dissous, lui, en 1976, ce mouvement, qui était dirigé par Adriano Soffri, qu'on a entendu au début de cette émission. Et au moment, justement, où la question du passage à la lutte armée se posait. À ce moment-là, Lotta Continua s'est dissous. Et Eri De Luca se souvient de la surprise, pour pas dire l'hébétement, lorsque Aldo Moro a été enlevé par les Brigades Rouges.
En 1978, c'est l'enlèvement d'Aldo Moro. Quelle a été votre réaction à l'époque ?
Ma réaction, c'était la surprise, parce que c'était un saut dans la capacité militaire de la gauche révolutionnaire en ce moment-là. Il était un saut trop grand. Il était insoutenable. C'était un exploit militaire terrible, parce qu'il avait laissé sur le terrain 5 policiers.
Donc c'était un suicide pour la lutte.
Un pari qui pouvait pas être gagné. Ils ont perdu. Je crois, à ce moment-là, parce qu'ils n'ont pas su maintenir l'énormité de ce qui s'était produit en Italie, comme ça, avec l'enlèvement de Moro. L'enlèvement, et aussi le fait qu'on a, finalement, on a tiré sur un prisonnier, ce qui est la chose pire à faire. a tirer sur un prisonnier lié inerme. Être des bourreaux d'un prisonnier a été la pire qu'il pouvait faire avec dans l'organisation de cet exploit militaire hors de mesure dans l'Italie dans ce moment-là. Ma réaction était la surprise. Qu'est-ce qu'il va se produire maintenant? C'était un moment où on pensait qu'il pouvait exploser n'importe quoi. Il s'agissait tout simplement d'un exploit militaire singulier, sans possibilité d'être suivi, compris, et même, paraît même, ingérable.
La signification politique qui a été donnée, c'était de rendre impossible le rapprochement entre la démocratie chrétienne et le PCI.
Non, ça c'était une chose déjà faite. Le rapprochement commence avec la réaction du Parti communiste au fait du Chili. Le Parti communiste décide à ce moment-là que la leçon du Chili est celle de se mettre à côté de la démocratie chrétienne, de faire le compromis historique, de n'envisager pas un gouvernement de gauche, jamais plus un gouvernement de gauche, mais toujours un gouvernement avec la démocratie chrétienne. Donc ça c'était une décision stratégique définitive que Berlinguer avait décidé de prendre. Il n'y avait aucune possibilité de lui faire changer d'avis. Par contre, l'enlèvement de Moro rend le PC encore plus fiable comme partenaire de la démocratie chrétienne.
Con questo corteo silenzioso, i democratici cristiani portano in via Gaetani il loro estremo saluto al presidente Aldo Moro.
Vous vous écartez d'emblée toutes les questions ou tous les soupçons d'infiltration et de manipulation.
Beh, è importante perché noi ci siamo giocati la vita dentro questo impegno politico e non è una cosa piacevole, oltre a stare in galera.
C'est très important pour vous, très simple. Nous, on a joué notre vie là-dessus, on a joué dans cet engagement politique. Et on a payé les conséquences, on paye toujours les conséquences. Donc, ces choix-là, on ne peut pas les avoir faits en étant les marionnettes d'un marionnettiste.
Dalla CIA, al Mossad, à tous les services secrets possibles.
D'autant plus que je voudrais bien savoir qui aurait pu être notre chef extérieur. On a dit tout et le contraire de tout, on a attribué cette manipulation aussi bien à la CIA qu'au KGB, plutôt que le Mossad, plutôt qu'autre hypothèse. Là aussi, ça me paraît difficile de soutenir l'hypothèse qu'on soit été quelque part des agents d'une quelque puissance extérieure. J'ai jamais vu des agents qui passent toute leur vie en prison. Normalement, les agents, soit on les descend pour qu'ils ne parlent pas, soit on les envoie en Amérique du Sud bien protégés, avec des faux papiers. Donc, alors peut-être qu'il faudrait qu'on demande une pension à quelqu'un, une retraite, et nous payer une retraite.
Voilà une explication respectable, sans doute, mais qui ne satisfait pas évidemment toutes les questions qu'on peut se poser. Sans être directement un agent, on peut, comme on vient de l'évoquer, être infiltré, ce qui a été le cas, ou bien manipulé, tout simplement, il suffit de fermer deux portes et on prend celle du milieu, et c'est peut-être bien ce qui s'est passé, mais on reviendra dans les prochaines émissions, demain et lundi, sur cette question qui est évidemment centrale. On reste pour l'instant avec Barbara.
C'est quand même des hommes qui ont été tués. Est-ce que, avec le temps, vous avez des regrets sur les victimes?
Questo è un argomento difficilissimo. Io.
C'est un argument très très difficile et très très délicat.
Vengo da una cultura politica che pensava che gli atti violenti commessi da un gruppo di comunisti fossero una necessità storica.
Je viens d'une culture politique qui considérait que les actes violents faits par des communistes étaient une nécessité historique.
Fossero la necessità di compiere un atto violento per impedirne la prosecuzione, per impedire che ci fossero altri atti violenti.
Une nécessité historique pour arrêter d'autres violences.
era la politica, la médiation alle lacerazioni personnelles. Que
et donc, cette question est évidemment ouverte à un niveau personnel et est déchirante à un niveau personnel, mais c'était la politique qui me permettait de maîtriser et de médier ça. Donc, tout en ayant à faire les comptes avec tout ça dans mon fort intérieur, c'est une question personnelle.
Io non mi sento un'assassina.
Infine, je me sens pas meurtrière.
Est-ce que vous avez rencontré les familles des victimes?
Non l'ho mai incontrate. Le rare volte che si è presentata l'occasione perché è stato chiesto, l'ho rifiutato.
J'ai jamais rencontré, et les rares fois où on m'a été demandé de rencontrer, j'ai préféré refuser. Pour une raison assez simple, en tout cas pour moi, c'est que déjà c'est des gens qui n'étaient pas concernés, qui n'étaient pas responsables, donc un peu plus blessés, et que la blessure est tellement grande et tellement irréparable qu'il n'y a pas de geste de réparation, qu'il n'y a pas de mot de réparation. Il n'y avait rien que j'aurais pu dire qui pouvait réparer leur blessure, et que donc le silence restait pour moi la forme la plus souhaitable et la plus appropriée de respect.
Cioè spesso mi si chiede in maniera assolutamente improvvida se lo rifarei. Io credo che se mi ritrovassi in quelle condizioni, penso sì che lo rifarei. Credo che.
Vous savez, on me pose souvent la question, est-ce que vous le referez? Si vous pouvez revenir en arrière, est-ce que vous referez les mêmes choses? Franchement, je vous dirais que oui, que à cette époque, dans ces conditions, j'ai referé probablement le même choix. Et parce que les conditions étaient là, et moi je les ai vues. En quelque sorte, on peut dire qu'on a essayé, bien entendu, on n'était pas tout, mais on a essayé. Parce que aussi, il faut se rappeler qu'à un certain moment, au milieu de ces années 70, il n'y avait pas beaucoup d'options différentes. C'est-à-dire qu'une fois que la dynamique du compromis historique se met en marche, une fois que la poussée des groupes extra-parlementaires s'épuisent, soit on décide que d'accord, bon, on se retire, c'est fini, et on se met dans les mains du Parti communiste et on suit cette ligne-là, et en renonçant aux espoirs, en renonçant aux acquis, et en quelque sorte trahissant aussi les gens qui ont cru à cette hypothèse, soit on essaye. Et effectivement, moi je crois avoir essayé. Je ne me suis jamais mis un rond en poche, j'ai jamais trahi personne, j'ai jamais vendu mes amis, j'ai jamais renié quoi que ce soit. Et bon, je pense que de cette cohérence, je peux être orgueilleuse.
Vous pensez qu'avec vous, le fil rouge est coupé? C'est la fin du fil rouge. Les brigades rouges, c'est la fin du fil rouge. La foi dans la capacité de changer les choses.
Sì, io l'unica cosa, l'unico messaggio che ai giovani che mi fanno domande, l'unica cosa che riesco a dire è che non ci credete mai che non è possibile cambiare.
Il solo messaggio, entre guillemets, che j'ai a donné a ces occasions, se ne croyez jamais. Quand on vous dit qu'on ne peut pas changer les choses. Il y a évidemment la façon de les changer change chaque fois, il faut trouver des nouveaux moyens, des moyens différents, les conditions changent, l'environnement change, mais ne cédez jamais aux sirènes de ceux qui vous disent non, il n'y a qu'une pensée unique et rentrez chez vous à regarder votre télé. S'il y a vraiment une seule chose sur laquelle je suis prêt encore aujourd'hui à prendre la parole, c'est pour dire. N'écoutez jamais ceux qui vous disent les choses ne peuvent pas changer.
Ci andiamo a prendere un caffè?
Sì, volentieri, on prend un café?
Ah oui, avec plaisir. Merci Barbara Balzerani, Ride Luca, Adriano Sofri. Et je vous rappelle que la Ligue des droits de l'homme et l'association France Liberté, la fondation Daniel Mitterrand, organisent une soirée nationale de soutien à Cesare Battisti aux réfugiés italiens. C'est le samedi là qui vient, 26 juin, de 18h30 à 22h30 au théâtre de l'Œuvre, 55 rue de Clichy, dans le 9e arrondissement à Paris. Sandrine Laurent, Philippe Duclos, c'est la technique. Antoine Chao, Koyen Guyen, Yann Chouquet, Guy Vanctil, Francesco Giorgini, Pascal E. Pascariello et Christophe Imbert. Il a fallu tout ce monde-là pour faire ça. Et on arrive à 18h sur France Inter. Que vous écoutez, pub.
Pub.